On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur France Bleu, on se dit tout, c'est votre émission de confidence, c'est le moment où on prend le temps, où on se pose, où on prend du recul aussi. Et ce soir, on va doublement se poser parce qu'on va prendre l'apéro en même temps. Avec modération, bien sûr, mais je vous propose ce soir de faire le tour des vignobles français, de découvrir vos histoires de vignerons, des histoires de famille, de passion, de la Champagne à l'Alsace, du Val-de-Loire à la Provence, des Côtes-du-Rhône à la Bourgogne, direction le terroir, la tradition, le patrimoine gustatif de la France. Exceptionnellement, ce soir, on va donner vos noms de famille et vos domaines, si vous le voulez bien, là où vous travaillez. Ce sera plus simple aussi de vous retrouver. On se dit tout, fait la part belle au vignoble jusqu'à 22h.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Le vin, les vignobles, le travail de la vigne, la tradition familiale, c'est le sujet dont se dit tout ce soir sur France Bleu. On part à la découverte de vos métiers de vigneron, de vos histoire familiale, des saveurs très différentes aussi d'une région à l'autre. Et nous sommes dans l'Hérault pour démarrer cette émission avec Robin. Bonsoir Robin.
Bonsoir.
Je dis bien Robin parce que vous êtes anglais, hein, c'est ça? Je dis pas de
Exactement,
bêtises.
Exactement, moi je suis anglais et ma compagne Lise, ma femme Lise, elle est néo-zélandaise.
Alors comment un anglais et une néo-zélandaise se retrouvent à la tête d'une exploitation dans l'Hérault? C'est quoi votre histoire?
Je ne sais pas si vous avez jamais travaillé dans une banque, mais c'est quelque chose que je vous conseille fortement d'éviter. Et j'ai travaillé dans une banque pendant 4 ans à Londres, et c'est là où j'ai travaillé et j'ai rencontré Lise à la machine de café. Et les deux, on était passionnés par le vin. Et après 4 ans de travail à Londres, et tous nos vacances étaient dans les régions viticoles, on a suivi des cours d'onologie à niveau assez élevé, et voilà, on avait notre petit club de dégustation, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie? Moi, j'avais 27 ans, et je voulais pas rester derrière un bureau toute ma vie, Lise non plus, et on aimait beaucoup le vin, et on voulait faire quelque chose de créatif. Alors voilà, moi j'ai suivi des études d'un BTS Viti-Ono, à Brighton, en Angleterre. Et après 2 ans d'études, on a vendu notre petit appartement et on a traversé la Manche vers le sud et l'aventure.
C'est facile de trouver des terres quand on n'est pas du milieu, entre guillemets, de se dire, voilà, quelqu'un me fait confiance pour me vendre ces terres et je vais suivre une histoire qui n'est pas forcément la mienne.
Je crois que c'est très facile de trouver des terres. Par contre, c'est pas toujours facile de trouver les bonnes. Nous, on a regardé de Nîmes à la frontière espagnole. Ça fait à peu près 200 kilomètres. Et on a regardé une trentaine de projets. Et le projet qui nous a conquis, c'était quelques hectares de terre à côté de Montpellier, dans un petit village qui s'appelle Mirouviel-les-Montpellier.
Alors, qu'est-ce que vous faites comme vin aujourd'hui, Robin?
Alors, nous faisons plusieurs styles de vin. On fait du rosé, un rosé pétillant, méthode champenoise. Et après, ça va pas faire plaisir à nos amis champenois. Voilà, méthode traditionnelle, on va dire.
Oui, voilà.
On fait aussi, on fait du blanc et on fait 3 styles de rouge, plus des petites pépites. On fait du Sangiovese, qui est un cépage italien. On fait 350 bouteilles de ça et on fait 350 bouteilles de petits verres d'eau. Mais ça c'est pour le fun, c'est le côté plaisir.
Parce
qu'on est toujours passionné par le vin et voilà, ça c'est quelque chose qu'on a fait après 10 ans de métier. On a décidé de faire quelque chose pour nous. Voilà.
Et alors vous aimez le vin, vous aimez le partager aussi. Je sais que vous aimez bien aussi le faire partager avec des parrains et des marraines. C'est ça, on peut parrainer votre vigne.
Exactement. On a environ 50 000 pieds de vigne et voilà, on cherche des parrains pour chacun des pieds de vigne. Alors non, tout blague à part, on a 500 parrains qui ont chacun un pied de vigne avec leur nom dessus. Ils reçoivent un certificat de parrainage et on les invite à venir récupérer leurs bouteilles de vin, soit une fois par an ou une fois la vie du parrainage qui est de 3 ans. Et on les invite pour la taille et aussi pour les vendanges.
C'est une façon de partager, de se dire, voilà, le vin, c'est une aventure qui se partage et d'expliquer aussi comment on travaille la vigne.
Exactement. L'idée, en fait, il y a beaucoup de gens qui aiment le vin, mais qui ne savent pas forcément comment le vin, il est fait. Alors, l'idée des parrainages, c'est de partir de la taille, jusqu'aux vendanges. C'est le A à Z de la vigne. Parce que, n'oubliez pas que, comme vigneron, c'est 3 métiers. Nous, on les appelle les 3 V. Il fait la vigne, le vin et la vente. Ouais. Et il faut qu'il soit assez fort dans les 3.
Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui, Robin, de cette nouvelle vie, de cette vie dans les vignes? Vous nous avez dit que c'était, voilà, j'ai l'impression que c'était il y a des années-lumière quand vous étiez banquier à Londres. Vous êtes épanoui dans votre métier malgré les difficultés, parce qu'on sait que c'est pas simple forcément.
On est très heureux. Il y a des moments difficiles, il y a des moments magnifiques. Je crois que c'est comme dans tous les métiers. Nous, on a choisi d'être nos propres patrons. Et ce qu'on a fait aussi, en fait, c'était parce que nous, on a acheté des vignes et on a acheté un bâtiment et on a créé le domaine de Saumarais de zéro, en fait. Ça n'existait pas avant. Alors, on a trouvé un terroir magnifique avec du potentiel. Et on a vu qu'il y avait vraiment on est à 8 kilomètres du cœur de Montpellier. Entouré d'une garrigue splendide. À Londres, on avait 60 mètres carrés et on avait des appartements tout autour. Ici, on a des sangliers, des lapins, des perdreaux. Et c'est une vie complètement différente. On ne compte pas les heures.
Ouais.
Nos enfants sont nés à Montpellier, mais je crois qu'ils vivent une très belle expérience et une belle vie ici.
Alors, pour les amateurs de vin, parce que je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent, on est sur quel cépage chez vous au domaine de Saumarais?
Alors, on est sur plusieurs, c'est les cépages classiques du sud, on va dire, sur les rouges, on est sur Grenache, Syrah et Mourvèdre. Et après, sur les blancs, on est sur Marsanne, Roussanne et Grenache blanc. Plus les deux cépages un peu anecdotiques, Sangiovese et Petit Verdot, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Petit Verdot, c'est rigolo pour du vin.
Exactement.
C'est l'humour britannique, ça.
On peut boire une bouteille de Petit Verre d'eau et voilà, on a pas mal à la tête voilà, le lendemain.
Alors ce soir, exceptionnellement, dans On se dit tout, on va donner les noms de famille et les noms de domaine, hein, si vous voulez bien, parce que c'est intéressant aussi, quand on se promène, de redécouvrir les noms, d'aller chez des professionnels, de se dire, tiens, j'ai entendu à la radio qu'il y avait telle ou telle personne. Donc le domaine, c'est le domaine de Saumarais, c'est ça?
Exactement, c'est Saumarais ou Saumarais, ça se prononce dans le sud. En fait, c'est un nom breton, parce que moi, je suis originaire de Guernesey, et ça veut dire sel de mer. Saut, c'est le sel, marais, c'est la mer. Et voilà. Et c'est aussi le nom d'une partie des ancêtres de Lise. Alors, c'était un joli un petit clin d'œil à nos deux vies respectives.
Merci beaucoup, Robin Williamson, d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu et d'avoir fait partager votre histoire et votre passion aussi pour le vin. À très bientôt.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on fait le tour des vignobles français sur France Bleu. Alors, c'est pas un cours d'œnologie, hein, je vous rassure, mais c'est surtout pour découvrir le travail, les histoires, pour vous écouter nous parler du vin avec passion. Et nous sommes maintenant dans le Lodge chez Julien Hilbert. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Alors vous, c'est une histoire de famille, le vin, même si au début on ne faisait pas forcément que du vin chez vous.
C'est ça, ouais. C'est une histoire de famille où c'est que j'ai connu sur le domaine mon père, mon arrière-grand-père et mon grand-père. Et ça a été une exploitation jusqu'en 1998 qui a été en pluriculture.
Donc il n'y avait pas que du vin, effectivement.
Non.
À quel moment vous vous dites, tiens, on va laisser tomber les vaches et on va vraiment se consacrer qu'à la vigne et qu'au vin?
Ben, c'est plein de petites choses qui, au fur et à mesure, on me fait évoluer. On est passé des vaches aux céréales, tout en ayant toujours de la vigne. Historiquement, il y avait aussi un peu de tabac et de maïs sur le domaine. Donc, on a laissé tout tomber en 1998 et on s'est consacré exclusivement à la culture de la vigne et du vin à partir de 1998. Oui.
Et vous avez toujours travaillé avec votre papa, alors?
J'ai connu mon grand-père jusqu'en 2003. Je me suis installé, moi, en 2003, justement. Et là, on travaille encore ensemble, ouais.
C'est pas compliqué? Il n'y a pas une certaine pression d'avoir son papa avec soi, son père avec soi, se dire, bon, ben, lui, il travaillait d'une certaine façon, moi, j'ai peut-être envie de faire autrement. Est-ce que c'est possible, d'ailleurs, de faire autrement? Ou est-ce qu'on doit suivre une certaine tradition familiale?
Oh, ben surtout pas. Si on suit des traditions familiales, c'est voué à la non-évolution du domaine. Moi, quand je suis revenu en 2003, ben, je suis resté un peu sur le côté pendant 4-5 ans, tout en donnant certains avis. Mais j'ai la chance d'avoir un père qui a toujours vu de l'avant et qui m'a laissé toujours prendre plein d'initiatives. Et bon, sans rien vous cacher quand même, nous sommes deux caractères relativement forts. Donc il y a quelques fois où c'est que personne ne pouvait rentrer dans le chai parce qu'il fallait nous laisser s'exprimer un peu entre nous deux, quoi. Voilà.
Est-ce que ça se ressent dans votre vin, ce caractère un peu fort?
Non. On a, c'est qu'une apparence. Après, on essaye d'adoucir les choses.
Non, mais je veux dire, c'est des vins de caractère chez vous, peut-être aussi.
Alors, historiquement, oui, bien sûr, Cahors a été connu et reconnu pour ses vins de caractère, par son cépage emblématique qui est l'Auxerrois, que l'on appelle à l'étranger le Malbec aussi, qui est le même cépage. Hein. Mais petit à petit, les techniques, enfin, les visions de vinification ont évolué et le travail aux vignes ont beaucoup évolué aussi. Donc on arrive quand même à faire des vins qui sont relativement, on va dire, plus souples et plus agréables à boire.
Le bio, on y pense aussi quand vous y êtes, d'accord.
On est certifié depuis cette année, 2016. Donc on a officiellement, on a engagé une conversion à l'agriculture biologique certifiée par le label Écocert, par l'organisme Écocert depuis 2013. On avait commencé à travailler, à tourner autour pendant 2 ans auparavant, mais officiellement nous avons engagé donc cette conversion en 2013 et on a commencé à avoir des certifications sur le millésime 2016.
Est-ce que déjà vous voyez la différence? Alors c'est assez récent, hein, vous dites, hein, c'est tout récent la conversion en bio, mais est-ce que déjà sur le vin, sur le résultat, est-ce que vous sentez la différence?
Non, je pense que ça serait mentir de voir une différence. Par contre, là où on voit la différence, c'est sur le travail de tous les jours, c'est sur le travail à la vigne, c'est sur le travail, sur la vision du végétal et sur la vision après le végétal jusqu'au vendange. Et il y a plein de petites choses qui font que on obtient des résultats de plus en plus intéressants. Mais on ne peut pas mentir en disant qu'en 3 ans de conversion à l'agriculture biologique, on sent déjà des résultats. Par contre, effectivement, sur les santé personnelles, sur la façon surtout de voir le végétal, c'est super important. Et
c'est plus de travail aussi dans la vigne?
Ben, plus de travail, oui, bien sûr, c'est plus de travail. Après, c'est un travail qui est récompensé. Aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup d'écologie. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Après, le travail, oui, c'est notre passion, donc on le regarde pas forcément.
Julien, comment on fait pour vous retrouver? On a dit, hein, dans le début de cette émission qu'on donnerait aussi les noms des domaines, les noms de famille aussi pour vous retrouver, soit directement sur place, soit dans les caves, chez les cavistes aussi. Vous êtes où exactement? Vous appelez comment exactement?
Moi, c'est Julien Hilbert et c'est Château Combelle-Lasserre. C'est sur le petit village de Cournoux, sur les hauteurs de Cahors. On est à 350 mètres d'altitude. Donc, bien évidemment, vous pouvez venir au domaine. Je vous accueillerai avec grand plaisir sur rendez-vous. Et ensuite, chez tous les bons cavistes et restaurateurs de la région.
Merci encore d'avoir été avec nous, Julien Hilbert, et merci d'avoir partagé surtout votre travail, votre histoire de famille, cette conversion en bio, c'est super intéressant et c'est vraiment passionnant. À très bientôt, Julien.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Le vin, les vins même, les vignobles, les terroirs, c'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h et c'est une femme que nous allons accueillir maintenant. Elles sont encore trop peu nombreuses, mais quand elles prennent les manettes, généralement elles font des merveilles. C'est Charlotte Morgan Le Gallais qui est avec nous en Champagne. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Vanessa.
Chez vous aussi, c'est une histoire de famille, le vin, le champagne. Vous avez toujours grandi dans les vignes?
Alors oui, c'est une histoire de famille puisque le domaine est un domaine familial. Et moi, j'ai effectivement assisté aux grandes étapes de l'élaboration du champagne depuis que je suis petite. Mais j'ai rejoint mon père, en fait, il y a simplement quelques années en ayant eu une expérience professionnelle au préalable. Donc c'est un deuxième métier pour moi, mais c'est quand même une histoire de famille.
Mais vous le disiez quand vous étiez plus jeune, vous vous disiez tiens, un jour, c'est sûr, je reprendrai le domaine. Il y avait quelque chose de ça derrière?
Alors, il y avait quelque chose dans le goût de la nature, de l'environnement, puisque j'ai travaillé dans le secteur des énergies renouvelables avant de rejoindre mon père. Donc, tout ce qui est terre et ressources naturelles, c'est toujours un sujet qui m'a interpellée, mais j'avais pas très clairement signifié le souhait de prendre la suite. Donc c'est venu vraiment au fur et à mesure.
On va parler du champagne un peu quand même, parce que c'est votre spécialité. Il y a un côté toujours magique, même si on sait aujourd'hui de plus en plus, parce qu'on sait comment c'est fait, même si on a la possibilité d'aller voir comment c'est fait, il y a toujours ce côté magique dans le champagne.
Ouais, c'est la bulle, la festivité, et puis peut-être aussi un peu le secret, la complexité, puisque c'est un vin qui nécessite beaucoup de manipulation par rapport aux vins d'autres régions. Donc il y a toujours une curiosité. Et oui,
faut tourner les bouteilles, c'est ça. Hein.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, il y a une deuxième fermentation, ce qu'il n'y a pas dans les autres régions. Pour les vins tranquilles, en fait, on ne fait qu'une fermentation. Là, on en fait deux. Et comme la deuxième se passe dans la bouteille, il faut à un moment donné extraire les lits de la bouteille. Donc tout ça, ça fait beaucoup de manipulations.
Il faut combien de temps, tiens d'ailleurs, en moyenne, pour faire un champagne ?
Alors ça dépend des vignobles. La législation dit 15 mois pour les vins non millésimés et 36 mois pour les millésimés. Au champagne Le Galais, donc on fait minimum 3 ans et demi. Donc minimum une quarantaine de mois.
Ah ouais, effectivement.
Même pour les non millésimés. Donc après c'est la recherche de la
perfection.
Voilà.
Je parlais des femmes, vous êtes encore trop peu nombreuses, même si heureusement il y en a qui arrivent vraiment dans le milieu. C'est un atout pour vous d'être une femme et de travailler la vigne? Ou est-ce que ça change pas grand-chose?
Ouais, alors c'est un atout parce que vous voyez, vous me posez la question, il y a une curiosité, je trouve, autour de cette nouvelle du fait que les femmes s'y mettent, etc. Donc c'est toujours agréable le fait qu'on s'y intéresse. C'est pas vraiment un milieu machiste. Moi, je souffre pas du tout de ça. Simplement, il y a certaines manipulations et notamment tous les aspects mécaniques qui sont d'emblée un tout petit peu plus orientés vers les hommes. Donc c'est vrai que nous, aux vignes, on a effectivement un homme qui nous aide, et là d'autant plus qu'on se lance dans tout ce qui est on privilégie le mécanique plutôt que le chimique, évidemment. Donc du coup, il y a de plus en plus de problèmes mécaniques. Donc il faut quand même des mains fortes pour réparer.
Et puis vous êtes, j'ai vu, vite fait, récoltant, manipulant. Ça veut dire que vous faites tout du début à la fin. Vous avez vraiment une vision globale.
C'est ça, exactement. Il y a différents statuts en champagne. Et le statut de récoltant manipulant, c'est celui qui dit en gros que dans la bouteille, il n'y a que les raisins qui sont issus de notre clos, de notre domaine.
Et récoltant manipulant. Voilà. D'expliquer
c'est
aussi,
ça.
D'expliquer
on
aux gens.
Et quand... on manipule.
Ouais, non, mais c'est-à-dire que quand on va acheter une bouteille, on peut regarder et on est aussi consommateur un petit peu. On sait ce qu'on achète et on sait un peu mieux ce qu'on achète aussi.
Tout à fait, tout à fait. C'est toujours écrit en petit, mais c'est toujours écrit. RM, récoltant manipulant, et celui qu'on voit le plus souvent, c'est NM, négociant manipulant. Donc, c'est les grandes maisons qui achètent du raisin aux vignerons et qui, en fait, mettent en commun.
Rien à voir.
RC, qui sont les coopérateurs. Voilà, mais RM, effectivement, c'est vraiment du coup humain, quoi.
Mmh. Vous avez des enfants, Charlotte ?
J'ai trois enfants.
Trois enfants. Est-ce que déjà, ils s'y intéressent ?
Ils s'y intéressent beaucoup. Si vous voulez voir mon Instagram, ils goûtent les raisins. On fait des dégustations de raisins à l'aveugle pour essayer de différencier les cépages. Ouais, ils aiment beaucoup, beaucoup venir et participer aux différentes étapes. Quoi. Ils aiment beaucoup ça.
C'est quoi le boulot en ce moment ? Parce que c'est vrai que les gens pensent que la vigne, c'est juste pendant les vendanges et après, on est tranquille le reste du temps. C'est quoi là en ce moment ? Qu'est-ce qu'on travaille ?
Alors en ce moment, on est bourgeonne. C'est-à-dire qu'on choisit les bourgeons qu'on va garder et ceux qu'on élimine pour que la végétation soit bien répartie sur le cep et qu'il n'y ait pas trop de raisins pour pas favoriser les maladies, que ça s'éparpille bien. Voilà.
D'accord. Ah c'est bon à savoir tout ça. Merci beaucoup Charlotte d'avoir été avec nous. Le domaine Le Galais donc en Champagne pour faire pétiller les petites bulles qui font tellement de bien. Merci beaucoup Charlotte. Bonne fin de soirée à vous.
Merci Vanessa.
Au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on parle du vin, de la vigne, du travail, de la tradition sur France Bleu. Et on se dit tout avec les premiers concernés, ceux qui travaillent la vigne, qui imaginent le vin, qui le subliment aussi dans toutes les régions de France. On va parler de l'appellation Quincy tout de suite, direction Le Cher, chez Julien Janssen. Bonsoir Julien.
Bonsoir Vanessa.
Alors vous êtes vigneron bio et il paraît même que vous êtes un des rares dans l'appellation Quincy, c'est vrai ?
On est même les seuls pour l'instant.
Ah ouais.
Les seuls à produire. Il y a une autre vigneronne qui est en début de production en bio, mais pour l'instant, on est encore les précurseurs sur l'appellation Quincy.
Comment ça se fait ? C'est que c'est compliqué de passer en bio chez vous ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Effectivement, c'est techniquement, c'est assez compliqué parce qu'on a un contexte pédoclimatique qui n'est pas forcément des plus simples. Le sol est assez sableux et peut parfois retenir l'humidité, ce qui peut compliquer la lutte contre le mildiou, notamment, et donc en bio encore plus.
Mmh, oui.
Et puis après, il y a aussi un autre phénomène, qu'ainsi est une appellation qui fonctionne plutôt bien, et aujourd'hui, il n'y a pas franchement besoin de, chez les collègues qui sont conventionnels, de se poser la question de la commercialisation. Et voilà.
Mais vous, ça s'est imposé. Je peux
expliquer. Mais nous, ça s'est imposé dans le sens où on a aussi une exploitation agricole en culture céréalière et légumes qui est déjà en bio depuis 93. Et la suite logique était de passer les vignes en bio aussi.
Mmh. Alors vous dites que le Quincy, il y a une notoriété aujourd'hui qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus pour se faire connaître. Si vous deviez en quelques mots décrire votre vin, vous diriez quoi pour les gens qui ne connaissent pas par exemple ?
Alors pour les gens qui ne connaissent pas, le Quincy est un vin qui est issu d'un cépage emblématique de la Loire, le Sauvignon. C'est une des rares appellations sur lesquelles on ne cultive qu'une seule couleur de vin issue d'un seul cépage, donc le Sauvignon. Et pour caractériser un peu nos vins, on va dire que c'est des vins blancs, secs et fruités, avec une certaine minéralité, une certaine fraîcheur et une certaine élégance qui nous sont enviées régulièrement.
Dont les femmes raffolent, vous pouvez le rajouter, hein.
Oui, c'est vrai.
Non, mais il faut le dire. Parfois, les gens confondent, ils disent « je voudrais boire un Sauvignon », par exemple, on confond le cépage, l'appellation. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire ?
Oui, bien sûr. Le milieu du vin est un milieu très vaste. Il y a autant de goûts qu'il peut y avoir de vignerons au sein d'une même appellation. Et voilà, c'est pas parce qu'on boit un Sauvignon qu'il sera pareil chez tout le monde. C'est un peu ce qui fait la force de nos appellations en France, c'est qu'il y a quand même une certaine base dans laquelle on est tous plus ou moins situés, mais vous pouvez goûter des vins de vignerons qui sont sur une même appellation, mais qui n'auront pas le même goût parce que
c'est le travail,
ils sont
après.
Issus de terroirs différents, ils ont été travaillés différemment en cave, les maturités ne sont pas forcément les mêmes, et voilà, tout ça, ça apporte une richesse organoleptique qui est vraiment très intéressante.
C'est-à-dire que sur le même territoire, la terre peut être différente.
Bien sûr. Nous, à notre modeste échelle, on a réalisé plusieurs cuvées qui sont issues de terroirs différents. Et pour un même raisin, on va avoir des goûts qui sont totalement différents.
Alors, on a entendu beaucoup depuis le début de cette émission d'histoire de famille. Est-ce que chez vous aussi, c'est une histoire de famille, Julien Levin ?
Pas tout à fait. Nous, on est seulement la deuxième génération. Nos prédécesseurs ont commencé à se lancer dans la vigne en 1995. Ça a été une aventure collective à l'échelle du vignoble de Quincy. Il y a un certain nombre d'agriculteurs spécialisés qui étaient en quête de diversification et qui ont eu l'opportunité de reprendre un domaine qui était en vente sur Quincy. Et donc, nos prédécesseurs se sont lancés dans l'aventure de façon collective, tout en valorisant chacun les raisins qui étaient issus de leur récolte. Et le fait d'y aller collectivement permettait de se lancer sans avoir à prendre trop de risques et sans avoir un capital trop important à mettre en place au départ.
Les jeunes aujourd'hui qui arrivent, qui veulent s'y mettre, c'est compliqué ?
C'est compliqué dans le sens où c'est un budget qui est non négligeable. Un hectare de vigne, c'est pas donné. Et du coup, il y a un capital à reprendre qui est assez important quand on veut se lancer. Donc, effectivement, il faut avoir une banque qui soit prête à suivre quand on veut se lancer. Ouais.
D'où l'importance après de travailler peut-être les choses différemment, d'apporter un petit plus, qui fait que on se fait connaître aussi différemment.
Oui, c'est toujours. Derrière le vin, il y a un vigneron, et donc effectivement, plus la notoriété du vigneron est bonne, et plus c'est facile commercialement.
Non, mais on voit quand même de plus en plus de jeunes vignerons. Alors, je ne sais pas si je peux vous mettre dans la catégorie jeunes vignerons, mais a priori, oui, quand même.
Encore relativement, oui.
qui font un effort aussi sur le marketing, sur les étiquettes, sur les bouteilles, sur la communication. Oui. Ça fait partie du jeu, entre guillemets, aujourd'hui.
La communication, oui. L'étiquette, c'est ce que le client voit en premier dans un rayon, et si on a une étiquette qui est plutôt jolie, ça peut inciter le consommateur à acheter, même s'il n'a jamais goûté le vin. Après, d'autres aspects importants, c'est avoir un réseau de distribution dans lequel les les gens qui vendent nos vins les connaissent bien et peuvent les mettre en avant. Ça aussi, c'est un point très important. C'est pour ça qu'on essaie de nouer des partenariats avec des cavistes. Et
c'est vos meilleurs ambassadeurs. Mais voilà, on a dit la même chose en même temps.
Oui.
La grande distribution, on n'en a pas encore parlé. C'est un sujet tabou ou est-ce qu'on est un peu obligé quand même de faire avec?
C'est pas tabou. C'est un créneau de distribution parmi d'autres. Nous, à notre échelle, on est sur un domaine qui est relativement petit et du coup, on n'a pas spécialement
y a pas de gros volume
aujourd'hui de la grande distribution. Voilà. On n'exclut pas de travailler avec la grande distribution ponctuellement s'il y a besoin, quoi. Après, c'est pas forcément non plus exactement sur les mêmes cuvées qu'on va travailler avec des cavistes. Enfin, on est sur des vins qui sont...
Les petites pépites, on les garde pour les cavistes et le vin un peu plus classique, c'est ça pour la grande distribution.
Généralement, c'est ça, oui.
Merci beaucoup, Julien Janssen, d'avoir été avec nous. Le domaine du Coudray, donc, c'est où exactement dans le Cher?
Alors, on est situé, nous, à Civray, à côté de Saint-Florent-sur-Cher, et donc nos vignes sont à Quincy.
Ah ben merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, bonne fin de soirée.
Merci à vous,
au
bonne
revoir.
Soirée aussi.
Vos témoignages, vos expériences, ce soir, on se dit tout sur France Bleu, avec Vanessa Lambert.
Et oui, la vigne, le vin, le terroir, les vignerons, c'est le sujet dont on se dit tout jusqu'à 22h, et nous allons maintenant partir dans le Luberon, chez Johan Malandin. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
Comment ça bosse alors chez vous? En famille, pas du tout? C'est une exploitation historique, toute récente? Parce que depuis le début, on avait quand même eu beaucoup d'histoires familiales. C'est comment chez vous?
Alors en fait, on est sur un domaine également familial, mais dont je ne suis pas propriétaire. En fait, moi je suis salarié, je suis responsable du domaine, donc je gère le domaine au quotidien. Mais c'est à la base une propriété familiale qui est dans la même famille depuis les années 1950.
Mais vous faites donc, faites partie de la famille un petit peu maintenant?
Oui, parce qu'en fait, je suis arrivé sur le domaine au moment où il sortait de carte coopérative il y a une douzaine d'années. Et c'était quasiment mon premier poste. Et voilà, j'y suis resté depuis parce que les choses se sont bien passées. Le domaine a bien progressé. Il y a toujours de jolis projets à mettre en œuvre. Et donc voilà, je m'y plais énormément.
Là où c'est Luberon, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, on est sur quel type de vin?
Alors en fait, on est situé sur la vallée du Rhône, mais à l'extrême sud-est de la vallée du Rhône, à la limite des vins de Provence. Donc en fait, on va avoir une production un petit peu particulière. On fait 50% de rosé, c'est-à-dire beaucoup moins que la Provence, qui est plutôt sur des 80-90%. Et on va faire 30% de rouge, ce qui est beaucoup moins que la vallée du Rhône, qui elle fait plutôt 80% de rouge. Et on a également une proportion de blanc qui est assez importante. On fait 20% de vin blanc, ce qui est quand même assez spécifique pour une appellation du sud de la France.
D'accord, vous êtes un peu à la croisée de tout ça.
C'est vraiment, je trouve, une appellation un peu charnière entre la vallée du Rhône et la Provence, tout à fait.
Ça veut dire qu'il y a plein de cépages différents aussi sur votre domaine?
Oui, alors effectivement, sur le domaine, on travaille sur 6 cépages différents.
Ah ouais, quand même.
Les plus connus vont être la Syrah, le Grenache noir. En cépage rouge, on a également du Mourvèdre et du Cinsault sur le cépage rouge. Et on travaille sur 2 cépages blancs, qui sont le Grenache blanc et le Vermentino. Mais c'est vraiment une toute petite sélection des cépages qui sont autorisés par l'appellation, parce que en blanc, par exemple, l'appellation autorise 8 ou 9 cépages différents. Donc on a vraiment une grosse diversité de vins produits sur l'appellation, avec des profils qui peuvent quand même être assez variés selon les choix qui ont été faits sur les cépages.
Mais est-ce que parfois on n'est pas tenté, quand on a 6 cépages différents comme ça, de faire des alliances un peu inédites? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut tester aussi? Est-ce que vous le faites?
Alors oui, on peut tester des choses un petit peu originales. Par exemple, on a une cuvée qui est faite à 99% sur le cépage Vermentino. On a le droit de faire ce genre de choses. L'appellation normalement demande à ce qu'on fasse obligatoirement un assemblage d'au moins 2 cépages, mais on peut travailler avec 99% d'un cépage et 1% d'un autre, et ça permet de faire des cuvées avec des profils bien spécifiques qui sont vraiment déterminé par un cépage en particulier.
Alors on sait que dans le sud-est, vous avez un climat quand même très variable. Hein. Parfois il fait très très chaud, parfois il y a de grosses pluies, parfois il y a beaucoup de vent. C'est pas un peu compliqué de travailler aussi dans ces conditions climatiques qui changent sans arrêt?
Alors c'est vrai que ces derniers temps, on a eu quelques petites frayeurs là, au niveau du climat, même si globalement pour nous les choses se sont plutôt bien passées. Pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, là, comme beaucoup de secteurs viticoles français, on a eu quelques dégâts de gel. Alors sur le domaine à proprement parler, pas trop, On a quelques kilomètres d'ici, il y a des parcelles qui ont été détruites à 100%. Et sur l'ensemble de l'appellation, c'est presque un tiers du vignoble qui a été touché à différents degrés par le gel. Donc voilà, nous on est passé à travers pour cette fois-ci. Mais par exemple, l'année dernière, on a subi un été très sec. Et ça nous a occasionné une petite perte de production de l'ordre de 10 à 15%. Mmh. Voilà, pas catastrophique, mais bon, c'est quand même des volumes qu'on aurait préféré avoir.
Oui, bien sûr. Alors surtout, là, vous êtes, j'ai vu, en biodynamie. Il faut nous expliquer un petit peu ce que c'est. Le bio, on se dit d'accord. Biodynamie, c'est quoi dans le vin?
Alors, disons que c'est une étape supérieure par rapport au bio. Donc, pour être en biodynamie, la base, c'est d'être certifié en bio, de toute manière. Et ensuite, on va s'attacher en biodynamie à essayer de respecter un petit peu les rythmes du vivant, notamment en regardant le calendrier lunaire pour effectuer certaines opérations culturales, ou même certaines opérations dans la cave, comme par exemple les soutirages des vins. Et en parallèle de ce respect des rythmes du vivant, on a également tout un travail sur la réduction des intrants. On essaie vraiment d'utiliser le moins d'intrants possible, que ce soit sur les vignes ou que ce soit à la cave au moment de vinification. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'arriver à faire les vins les plus naturels possibles.
Et ça, c'est un plus aussi pour se faire connaître, pour vendre. Les gens, ils sont sensibles au fait que ce soit écrit en biodynamie sur vos bouteilles?
Alors, c'est effectivement un plus au niveau commercial parce qu'on est dans une région, là, dans le sud de la France, où le bio commence quand même à se développer de façon assez importante. Sur le Luberon, on a presque un tiers des producteurs qui sont en bio ou en conversion.
C'est pas mal, hein.
Donc, ouais. Le fait de travailler en biodynamie permet de se distinguer un peu plus. Actuellement, sur le Luberon, nous sommes les seuls à être certifiés en biodynamie par une charte privée qui s'appelle Demeter. Et c'est vrai que du coup, ça ouvre de nouveaux marchés, notamment à l'exportation. Il y a des pays qui sont très sensibles à la biodynamie, comme par exemple l'Allemagne, la Suisse. Et donc, ça nous permet d'ouvrir de nouveaux marchés sans pour autant, je dirais, laisser tomber les marchés existants qu'on avait par le passé, dans la mesure où on fait de la biodynamie de façon raisonnable. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'aller, on va dire, au-delà des limites en proposant par exemple des vins qui seraient potentiellement instables ou avec des ou avec des risques de défaut. Voilà, l'idée c'est quand même de faire des vins propres et stables. Donc on essaie de rester sur ce créneau. Voilà.
J'aime bien quand vous dites vin propre. J'aime bien le mot vin propre, c'est rigolo ça. Johan, si on veut vous retrouver, c'est le petit moment pub, hein. Vous êtes à Lourmarin, c'est ça?
C'est ça, à Lourmarin, donc c'est vraiment au cœur du Luberon, c'est un petit village provençal magnifique, fait partie des plus beaux villages de France. Donc voilà, en plus de visiter le domaine, ça vaut le coup de venir jeter un petit coup d'œil au village.
Domaine Château Fontvert, donc à Lourmarin. Merci beaucoup Johan d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu.
Merci beaucoup.
Merci, bonne fin de soirée.
Merci.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et ce soir, on se dit tout, fait le tour de France des vins. Enfin, pas le tour de France complet, hein, ça va être un petit peu compliqué tant il existe de régions, d'appellations, de vignerons, de vins différents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous écoute nous parler de votre métier et de votre passion. On va s'arrêter maintenant en Ardèche chez Julien Cécilion. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Alors la vigne, c'est pas votre premier métier. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez voulu en faire votre métier ?
C'est tout d'abord une rencontre de passion et puis une histoire familiale en fait. Je suis originaire de la région de Tournon-sur-Rhône, dans la vallée du Rhône-Nord, et ma famille faisait du vin depuis une dizaine de générations. Et l'histoire s'est arrêtée en 2000 quand mon oncle a vendu son domaine. Et puis le hasard des études a fait que j'ai pris une autre voie professionnelle. Et puis la passion revient au galop et un jour on décide de s'installer dans son pays d'origine et retourner aux racines.
Ouais, et ça marche? Et ça le fait?
Alors ça marche parce que tous les matins je me lève avec le plaisir d'aller au travail, donc de ce côté-là ça marche. Et voilà, après c'est un projet ambitieux et difficile au départ, mais on n'a rien sans rien. Et puis ben, aujourd'hui je suis très content d'être dans cette aventure.
Alors on le fait depuis le début de l'émission, parlez-nous un petit peu de votre vin pour les gens qui connaissent pas forcément. On est sur quel type de vin, on est sur quel cépage, racontez-nous un peu l'histoire de votre vin.
Alors on est sur la région de la Vallée du Rhône-Nord, entre on va dire Lyon et Valence. On est dans le temple de la Syrah pour des vins rouges, donc parfumé délicat avec cette note épicée de poivre. On est sur des appellations de plus en plus connues, mais qui restent encore petites en volume. On est sur Saint-Joseph, Crozes-Hermitage.
Ça, et c'est puis... des noms qui font un peu rêver quand même les gens. Hein.
On espère, on fait tout pour. Et puis on est aussi sur Fab Perret pour des cépages pour les vins blancs avec la Marsanne et la Roussanne.
Vous travaillez tout seul ?
Alors avec mon épouse.
Ah, c'est une création. C'est mieux. C'est oui. Encore mieux à deux. À deux et non. En couple.
C'est vrai que c'est très agréable. L'histoire a débuté en fait avec mon épouse. On s'est rencontrés lors d'expériences professionnelles à l'étranger et puis on s'est dit pourquoi pas à notre tour créer notre domaine.
C'est-à-dire que vous avez chacun un rôle bien défini sur l'exploitation ?
Oui, ça s'est fait un petit peu au fil du temps. Elle est plus sur la partie au départ, elle est sommelière de métier. Mais elle a trouvé une passion quand même pour la vigne. Et puis moi, c'est aussi la vigne et puis la cave aussi un petit peu.
Comment on fait pour se faire connaître ? Ça, c'est vraiment une question quand on débute, quand on est jeune comme vous l'êtes aussi. Vous êtes un jeune vigneron, on peut le dire.
Merci. Hein, oui, ouais. On peut le dire. Très agréable d'entendre.
Comment on fait pour se démarquer, pour se faire connaître aussi du public ?
Très bonne question. J'en sais rien. Je crois que nous, ce qui nous a intéressé dès le départ, c'était de se focaliser à la fois sur les terroirs sur lesquels on était et d'essayer d'être un révélateur de terroirs. Et puis de continuer à faire qu'un métier avec la passion, en fait. Et puis les choses viennent au fil des rencontres. Moi, je crois beaucoup en l'humain et il y a des belles rencontres qui se font dans ces métiers-là avec des gens qui sont aussi passionnés par les beaux produits, par l'alimentation, etc. Et puis, bah, petit à petit, on se fait un nom. Mais il n'y a pas vraiment de plan ni de recette logique.
On a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué juste à l'instant, du climat aussi. Malgré toute la passion, malgré toute l'envie, on sait que parfois c'est compliqué d'être vigneron parce qu'on est aussi tributaire de la pluie, du gel, surtout du gel, des maladies.
Ouais. C'est vrai que c'est très difficile à accepter au départ. Surtout les premiers millésimes où on a... Bah, financièrement, c'est très compliqué. Et quand nous, le premier millésime, en 2012, on a eu une parcelle qui est une plus belle parcelle à Croz-Hermitage qui a grêlé à 40%. On subit ça comme une injustice, comme quelque chose de vraiment difficile à digérer. Et puis cette année, on a eu le gel, comme beaucoup de nos confrères sur toute la France. Mais je crois que c'est peut-être avec le temps et la sagesse, on se dit que finalement, on n'y peut rien et puis bah, il faut continuer et ça a toujours été un paramètre que les agriculteurs ont dû à gérer et à apprendre et puis il ne faut pas s'arrêter là et puis essayer d'avancer.
On va en profiter pour faire un peu de promo, Julien, parce que vous nous donnez envie là depuis le début de l'émission tous à nous parler de vos vins que vous élaborez avec vraiment beaucoup de passion, vraiment. Alors je rappelle qu'on doit les consommer avec modération, bien sûr. Si on veut vous voir, si on veut vous retrouver, c'est la vallée du Rhône, certes, vallée du Rhône Nord, mais où exactement ?
Alors on est situé à côté de Tournon-sur-Rhône, donc c'est au bord du Rhône, en face de Tel-Hermitage, pour ceux qui prennent l'autoroute à tête pour les vacances. Sortez à Tel-Hermitage, venez nous appeler. Avec plaisir vous recevoir à notre camp.
Là, je pense que pour les vacances, une petite route des vins s'impose depuis le début de l'émission. On n'a qu'une envie, c'est de voyager et surtout de discuter, d'échanger. C'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup, Julien Cécilon, d'avoir été avec nous sur France Bleu.
Et merci à vous.
À bientôt.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et vous êtes plutôt Beaujolais, Alsace, Jura, Bourgogne, Provence, à moins que vous soyez plutôt vin de Loire et Muscadet. On parle du vin, des vignobles, des vignerons ce soir sur France Bleu. Et on va justement en parler de Muscadet en compagnie de Nicolas Chaublet. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous êtes producteur de Muscadet et je crois que c'est une affaire, une histoire de famille chez vous.
Exactement. Voilà. Oui, moi, je suis producteur de muscadet en famille. Je suis associé avec mon frère et nous sommes la quatrième génération de vignerons sur l'exploitation.
C'est facile, ça, d'avoir cet héritage aussi de quatre générations, trois générations avant. On se dit, est-ce qu'il faut faire dans la plus pure tradition ? Est-ce que quand on est jeune aussi, on a envie d'expérimenter autre chose ?
C'est chaque génération apporte son petit plus à l'entreprise. Hein. C'est vrai que l'entreprise s'est développée au cours des différentes générations qui sont passées. C'est aussi une chance d'avoir des racines, d'avoir aussi un vignoble qui est âgé, parce que nous, nos plus vieux muscadets ont 70 ans. C'était planté par l'arrière-grand-père, donc c'est aussi un lien, un trait d'union entre toutes les générations. C'est aussi le côté sympa, quoi. Et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice.
Le muscadet, il a bien changé, en tout cas dans l'image que les gens en ont, ça a beaucoup changé.
Oui, ça a bien changé, oui. Et c'est encore en train de changer. Faut dire qu'on revenait d'un petit peu loin, parce que bon, le muscadet n'a pas toujours une image, avait toujours une image de vin de comptoir un petit peu, qui était bu dans les différents bars nantais et autres. Maintenant, on revient avec un vrai muscadet de gastronomie, avec des vins qui sont élevés sur l'île, donc sur le dépôt de fermentation pendant très longtemps, et avec des vins qui sont complexes, riches et qui ont vraiment une âme, quoi, quelque chose à défendre.
Comment on fait justement pour améliorer tout ça? Comment vous, par exemple, vous avez pris les choses à bras le corps avec votre frère et vous êtes dit on va changer, on va améliorer certaines choses. C'est un travail qu'on voit jamais, ça, le travail vraiment du vin, de trouver le bon assemblage, le bon dosage.
Ah bah alors déjà il faut travailler déjà dans le respect déjà du cépage. Nous, le muscadet, c'est un seul raisin, donc on peut pas faire d'assemblage avec d'autres raisins. C'est uniquement le melon de Bourgogne, donc il faut vraiment travailler dans le respect de ce cépage, le respect des terroirs. Et puis, nous, on a trouvé notre particularité sur le domaine en faisant des élevages très longs. Donc jusqu'à 10 ans pour les plus longs en cuve souterraine, sur lit, ce qui apporte beaucoup de complexité. Beaucoup de complexité, beaucoup de richesse au vin. Et en gardant malgré tout une fraîcheur typique des muscadets.
Oui, ce que j'allais vous dire, au bout de 10 ans, est-ce que c'est encore du muscadet?
Voilà, c'est toujours du muscadet. Il est toujours resté dans la cuve là où il a fermenté, où il a fait sa fermentation. Et par ce biais-là, on conserve le gaz de fermentation. Et quand on embouteille le vin, ça contribue à faire la fraîcheur et l'équilibre. Et ce qui fait qu'on a des arômes d'évolution d'un vin plus âgé avec un équilibre d'un vin jeune, c'est très très intéressant.
Je vais vous poser la même question que pour les autres. Comment on fait pour se faire connaître? Comment on fait pour aujourd'hui être dans les bons réseaux, être distribué aussi, se faire connaître?
Alors, pour se faire connaître, il faut déjà faire un vin de qualité. Il faut déjà se démarquer sur la qualité. Et puis bouger aussi, rencontrer les gens. Nous, depuis notre génération, c'est-à-dire que ce n'est pas sur les trois générations d'avant, on est parti sur les marchés export. Maintenant, ça représente 50% de notre production, qui est commercialisée à travers le monde. Mais faut pas hésiter à bouger et puis rencontrer les acheteurs, rencontrer d'autres vignerons, se créer vraiment un carré d'adresse et un réseau, quoi.
Ça, c'est bien, d'autres vignerons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence, véritablement. On essaye de travailler ensemble, d'échanger.
Non, c'est vrai que, à l'échelle du monde, chacun est des toutes petites entreprises, des têtes d'épingle, et on a tous besoin les uns des autres pour avancer. Et d'autres vignerons, même à l'intérieur de la même appellation, quoi. C'est pas, On s'entraide entre vignerons du Muscadet, mais aussi entre vignerons d'autres appellations de
France. On se donne des conseils aussi parfois, on va goûter, on va échanger. Ouais.
Bien sûr, c'est ce qui fait la richesse. De toute façon, on a tous besoin d'avancer et je pense que les nouvelles générations vont aussi dans le sens du partage, de l'écoute. Et voilà, on n'a pas la prétention de faire le meilleur vin du monde, voilà, on a besoin des autres pour avancer.
Si vous deviez d'ailleurs décrire le Muscadet, Nicolas, vous diriez quoi? Pour les gens qui n'en ont peut-être jamais bu, qui ne connaissent pas ou qui ont un a priori un peu négatif?
Alors le Muscadet, c'est un vin de plaisir, un vin de soif quand il est vinifié pour être bu jeune, avec ses arômes floraux, de fruits blancs, et toujours sa petite fraîcheur typique du Muscadet. Et puis quand il est plus âgé, on tombe sur un vin de gastronomie, mais toujours très digeste, toujours dans le respect de, comme je disais, de rechercher la meilleure expression du fruit et du terroir. C'est pour ça que très peu de muscadets sont élevés en barrique ou autre, parce que c'est un cépage qu'il faut travailler vraiment sur la finesse et sur l'élégance.
Et c'est pas que avec les huîtres?
C'est pas que avec les huîtres, non. Maintenant, le muscadet, on le boit également, bon, on le boit toujours avec des huîtres, on le boit en apéritif, on le boit avec des poissons, et ça se marie aussi très bien avec tout ce qui est nourriture asiatique. Vous mettez ça avec des plats chinois, ça se marie vraiment très très bien, c'est vraiment intéressant.
Vous nous parliez de l'export tout à l'heure, qui sont dans le monde les plus grands amateurs de muscadet alors?
Alors, les Anglais sont toujours amateurs de muscadet, et puis les Américains sont de plus en plus.
Les Américains, ils disent muscadet, c'est ça?
Muscadet.
C'est trop mignon.
Et Canadiens aussi, ce sont des bons marchés pour nous aussi. Ouais.
Merci beaucoup Nicolas Chaublet d'avoir été avec nous. C'est le petit moment promo, si on veut vous trouver. Vous êtes où exactement? Dites-nous.
Alors nous, on est en plein centre du bourg de Boueil. Boueil qui est à 15 km de Nantes, sur l'axe Pornic-Noirmoutier, donc l'axe du bord de mer, l'axe de la côte.
le domaine du Haubourg.
Voilà, tout
c'est
à
ça.
Fait.
Merci beaucoup Nicolas Chaublet d'avoir été avec nous sur France Bleu.
C'est moi.
Bonne
Merci.
Fin de soirée.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et jusqu'à 22h, on vous écoute nous parler de votre métier de vigneron, de votre passion, de votre histoire. Et nous sommes maintenant en Côte-Rouennaise en compagnie de Stéphane Sérol. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Vous aussi, comme beaucoup depuis le début de cette émission, c'est une affaire de famille et depuis très longtemps chez vous.
Oui, oui, depuis avant le 17e, oui, tout à fait. Plusieurs générations, en effet.
C'est plaisant ou c'est pesant de justement d'avoir cet héritage?
Il y a les, on ne peut pas dire que c'est à double quoi. Il y a les deux. C'est pesant parce qu'on a la, on a les générations qui suivent et puis on est assis sur des choses, une culture, des traditions. Et puis il y a un petit côté pesant parce qu'il faut maintenir tout ça, pour faire évoluer, il faut le dynamiser même.
Vous voilà. Avez oui, le dynamiser, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir carte blanche à un moment donné, inventer de nouvelles choses aussi, ou est-ce qu'on reste dans la tradition ?
Ah, on modernise fort la viticulture aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse évolution, bien qu'on revienne à des méthodes des fois ancestrales, mais c'est aussi savoir évoluer, revenir sur des méthodes un peu anciennes en amenant une touche de modernité, en amenant l'agronomie un peu plus moderne. Voilà. Mmh.
Alors vous êtes sur la AOC, on le disait, Côte-Rouennaise. Pour ceux qui connaissent pas, on est où exactement? C'est quel type de vin? Expliquez-nous et situez-nous bien où on est aussi.
Voilà, alors la Côte-Rouennaise, on est au tout début des vins de Loire. On est sur la vallée de la Loire au niveau du Massif central. On est sur les contreforêts du Massif central. On est sur un socle granitique qui est sur les gorges de la Loire. On est entre Lyon et Clermont-Ferrand, à mi-distance entre ces deux villes, juste à côté de la ville de Roanne. Et le cépage historique, le cépage emblématique, c'est le Gamay, le Gamay Saint-Romain, qui donne essentiellement des rouges sur le fruit, puis des rouges plus de terroir, et également des rosés.
Voilà. Le sol granitique dont vous parliez, c'est un sol qui est très particulier quand on travaille la vigne?
Oui, alors le granit, donc on est sur des sols acides qui donnent des vins minéraux précis, tout le temps assez fins et élégants. Voilà, c'est des vins qui donnent une intensité minérale tout le temps assez forte.
Mmh. Alors je crois savoir aussi que votre femme vous a rejoint dans l'aventure. C'est plus facile de travailler en couple, de travailler à deux?
Oui, tout à fait. C'est important. Ça permet, moi, d'être plus dans les vignes à ces époques, à ces moments forts comme le printemps là qu'on est en train de vivre, et de pouvoir se reposer sur d'être avec quelqu'un qui s'occupe du commerce, de la communication, et puis d'échanger en famille. C'est important aussi là-dessus, quoi. Voilà. Ça fait ça fait des bons duos. Voilà.
Il y a beaucoup de travail en ce moment dans les vignes. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure. Les gens pensent qu'on travaille juste avant les vendanges et qu'après la vigne fait le reste. C'est pas le cas.
Et non. Les vendanges, c'est la récompense, on va dire. Là, c'est la grosse époque, la période où la vigne pousse, où l'herbe pousse. Et quand on est un agriculteur biologique comme nous, l'herbe, faut l'enlever avec des charrues, avec du travail mécanique, avec la pioche, comme on finit aujourd'hui manuellement. Et puis, il faut aussi guider la vigne pour qu'elle pousse droite, qu'elle pousse pas n'importe comment. Et puis, la préserver des maladies. Donc, c'est beaucoup de travail à cette époque-là. Et quand on commence une semaine, on sait jamais comment on va la finir en fonction de la météo.
Voilà. C'est un travail de patience aussi, beaucoup.
Voilà, de patience, de passion et d'adaptation. Faut tout le temps être en fonction de la météo, pour avoir peur de changer des plannings et de s'adapter à la météo et à la plante, à son
évolution. Mais il y a les récompenses aussi derrière, et votre vin est servi sur une des meilleures tables du monde, chez le 3 étoilés 3 gros. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, c'est une récompense. Avec tout le travail derrière.
Ouais, tout à fait. La maison Trois Gros, la famille Trois Gros a su remettre la Côte-Rouennaise dès 1978 sur sa carte. Et ça a été important, je crois, pour le vignoble de la Côte-Rouennaise à ce moment-là d'être mis en avant, d'être remis sur une carte de 3 étoiles au niveau local. Et puis aujourd'hui, ils nous aident beaucoup. On a une vigne en commun. Ils sont très attachés au terroir de la Côte-Rouennaise et à la mise en avant de leur vin. Oui, vraiment.
On n'en parle pas beaucoup, moi, je trouve, de la Côte-Rouennaise. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a souvent les mêmes grands vignobles qui sont mis en avant.
On en parle de plus en plus parce qu'on a une équipe de jeunes vignerons qui sont assez dynamiques et qui bougent pas mal, que ce soit à l'export ou en France, sur Paris, beaucoup. Et on est sur seulement 200 hectares, donc c'est sûr qu'on n'a pas la même force de frappe qu'un vignoble de 50 000 hectares. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour une surface de 200 hectares, on fait parler de nous et on est dans des vins confidentiels et c'est ce qui est chouette et ce que les gens attendent aujourd'hui.
Mais peut-être que vous aussi, vous avez un rapport différent avec les gens qui passent. Par exemple, on peut venir vous voir, on peut échanger avec vous.
Oui, oui, tout à fait. Notre caveau est ouvert tous les jours, du lundi au samedi. On reçoit des clients particuliers, on reçoit tous nos clients professionnels de France et de l'export qui viennent pour déguster, visiter. C'est important quand les gens passent de leur faire visiter, découvrir les vins. Ils repartent toujours avec des souvenirs. La bouteille suffit pas. Voilà.
Les souvenirs, la pédagogie aussi. On a entendu tout à l'heure un vigneron qui parrainait des cèpes, qui faisait des portes ouvertes aussi avec beaucoup de gens, qui propose des moments voilà, où la convivialité est au centre de tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites aussi?
Oui, on fait des week-ends dégustation, bien sûr. Et puis, des gens nous demandent pour venir, pour découvrir notre métier, ben on est toujours là. Toutes les classes de sommellerie qui peuvent passer à la maison, on les accueille, on leur présente la Côte Rouennaise. Et les particuliers sont les bienvenus tout le temps. On essaye de leur montrer au mieux notre métier. Voilà, de leur montrer ce que c'est vraiment que le travail de la vigne.
Alors on va terminer comme on l'a fait avec tout le monde par le petit instant promo. Stéphane, profitez-en. Vous êtes où exactement? On vous trouve comment? C'est le domaine Sérolles, mais où, dites-nous.
Donc domaine Sérolles, on est à Renaison, donc on est en plein cœur de la Côte Rouennaise, on est à 12 km de Roanne et à 1 heure de Clermont-Ferrand, 1 heure de Lyon, 1 heure de Saint-Étienne, on est dans ce triangle-là. Et on vous attend pour déguster nos vins et vous faire découvrir la Côte Rouennaise.
Merci beaucoup Stéphane Sérolles d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu et bonne fin de soirée et bon week-end au passage.